Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'y était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. »
Bonsoir. On a-tu des bons acteurs à l'Assemblée du Cap, hein? Merci à mes acteurs, merci à mon réalisateur, Danny. Donc, notre passage de ce soir, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. J'étais sur un transport au mois de mars dernier, sur le retour de Grand Rapids pour le travail, en tout cas, puis j'avais des réunions là-bas. Mais sur mon retour, j'étais dans un arrêt à Toronto, sur un transfert. J'étais dans un de ces cubicules-là. Et puis, je parlais sur Skype avec mon épouse, puis à un moment donné, je me suis mis à entendre des deux personnes en arrière de moi, dans le cubicule, juste en arrière de moi, qui parlaient. Puis je me disais, ces voix-là, ils me disent quelque chose, mais d'où est-ce que ça vient? Je ne le sais pas. J'étais à Toronto, je ne connais personne à Toronto. Fait que là, je me suis vraiment demandé, qui que c'est ces deux personnes-là? Qui connaît la série Toute la vérité? Chez nous, on écoute ça. Là. Puis, bon, les deux des actrices principales de cette série-là étaient assis juste en arrière de moi, mais ils parlaient très fort, mais j'ai fini par réaliser que c'était eux quand je me suis levé pour me déplacer pour aller ailleurs. Mais parfois, c'est des choses qui arrivent. On se ramasse assis près de des gens peut-être connus ou des gens un peu populaires, puis on dit... Ça me dit quelque chose, ça, cette voix-là ou ce regard-là, puis finalement, on finit par s'apercevoir que c'est quelqu'un de connu. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans le cas des deux disciples. Ils marchaient, puis à un moment donné, ils se sont aperçus sur le tard, on va dire, ils se sont aperçus avec qui ils avaient affaire, en fait. Voici le plan de qu'est-ce qu'on va se parler ce soir. Donc, on va parler de deux disciples qui sont d'abord aveugles. On va avoir leur version. Ensuite, Jésus qui va remettre les pendules à l'heure avec la version qu'eux vont avoir donnée. Le message de l'Évangile. Et puis, on va conclure avec diverses applications là-dedans. Premièrement, si on lit les versets 13 à 16. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 7000. « Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Donc là, on a deux personnes, deux des disciples de Jésus qui quittent la ville de Jérusalem vers Emmaüs, une ville qui aujourd'hui, on ne la retrouve plus, on ne sait pas exactement où est-ce que ça se réfère, ça. Mais le point, c'est que après la résurrection, ils se dirigent vers Emmaüs, puis là, Jésus se joint à eux. Puis là, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Là, il y a deux choses là-dedans. Jésus est ressuscité, mais il n'est pas uniquement ressuscité dans un corps d'esprit. Il est aussi ressuscité dans un corps physique, un corps qu'on peut voir, un corps avec qui on peut échanger, qu'on peut parler, un corps qu'on peut même toucher dans Jean 20, 27, dans son intervention avec Thomas, on voit que Jésus lui a même proposé de lui toucher. Voici, on voit donc justement qu'il est possible d'être physiquement voyant, mais spirituellement aveugle. L'autre chose qu'on peut voir de ça, c'est que vous n'allez rien voir de la parole. Vos yeux, votre cœur et votre esprit ne vont jamais être ouverts à sa parole sans que lui se révèle à nous. Ça, c'est les premières choses qu'on peut observer déjà à partir de notre texte. Donc, on voit avec les versets suivants, les versets 17 et 18, on va les lire, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » Donc là, on a nos disciples qui se promènent sur le chemin en direction d'Emmaüs, et puis Jésus qui se joint à eux. Il leur demande de quoi vous parlez. On se joint à un groupe de voyageurs, on essaie de s'introduire à eux. Jésus a très souvent utilisé cette méthode-là lorsqu'il approchait des gens, en posant une question. Pas nécessairement parce qu'il ne savait pas les choses, mais pour susciter un peu de l'intérêt, susciter la discussion, susciter une conversation. Mais là, ce moment-là, moi, je trouve qu'il est un petit peu comique quand même. Là, on a deux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, puis on a Jésus qui se joint à eux. Puis les deux disciples, Jésus leur demande de quoi ils parlent, et puis les deux disciples disent, « Coudon, t'es-tu le seul qui arrive de Jérusalem, qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé? » Toute la ville en parle de ça, là. Jésus, j'ai peut-être ma petite idée, là, mais... Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais avoir votre version, disons. J'ai beaucoup de peine à m'imaginer que Jésus n'avait pas un sourire en coin en abordant ces faits-là qui étaient directement concernés. Puis là, les disciples vont aller raconter leur version des événements. On peut relire les versets 19 à 24. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Puis il ne croit pas encore. OK. Dans les versets, moi je pense que le verset clé pour comprendre leur attitude, c'est le verset 21. Avec ça, on va comprendre le reste de leur attitude dans cette histoire-là. Le verset 21 dit, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Là, les deux disciples sont découragés, ils ont perdu confiance, ils ne croient pas les œuvres qui sont probablement discutées à travers tout Israël. Ils n'ont pas cru que ce que les femmes ont dit, parce qu'eux, ils en ont eu connaissance de ça. Ils n'ont pas cru que ce que Pierre a témoigné le matin même, puis ils s'en vont quand même. Leur peine était tellement grande qu'ils ne voyaient plus rien d'autre. Aveuglés par le désir de voir Jésus les délivrer, délivrer Israël à leur manière. Il était avec eux. Ses disciples ont probablement assisté il a peut-être même assisté à ces œuvres-là qui sont discutées à travers Israël. Étant des disciples, eux ont peut-être même assisté à ces œuvres-là. Ces œuvres-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils authentifiaient qui était Jésus, qu'il était Dieu. Puis ils doutent de les capacités de Jésus. Souvent, vous savez, on parle de Thomas, on fait souvent « Ah, Thomas », on a même fait une expression avec ça, ma mère l'emploie à tour de bras. Et puis, on voit ici là, que c'est quelque chose qui était généralisé, quelque chose qui circulait beaucoup, puis qu'il n'y avait pas juste Thomas parmi les disciples qui véhiculaient cette idée-là. Si on peut faire une parenthèse sur le verset 21. Donc, les disciples s'attendaient à un Messie libérateur, un rédempteur, un restaurateur. C'est exactement ça que Siméon, au deuxième chapitre de Luc, faisait mention. Vous savez, quand Jésus est allé au temple pour sa consécration, il y avait un vieil homme qui était là et qui attendait de rencontrer Jésus avant de s'en aller, avant de mourir. Simon, il a dit, Siméon disait, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » C'était exactement à ça que encore les disciples faisaient référence. En plus, ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, ben, c'est des disciples de Jésus. Le cercle, pas du cercle élargi. Non, ils font partie du cercle élargi, pas des 12 apôtres. Ils faisaient aussi partie de ceux qui attendaient ce Messie. Il en était venu à croire que Jésus était ce Messie qui délivrerait puis restaurerait Israël. Alors maintenant, ce qu'ils attendaient était plutôt la restauration du royaume d'Israël, c'est-à-dire une restauration triomphante, royale, une libération de l'envahisseur romain qui détestait. Puis ce Messie-là devait accomplir les promesses, les alliances faites à Abraham, et aussi établir finalement le royaume de David, comme c'était promis. Cependant, ils ne s'attendaient vraiment pas à la mort du Messie. Quand ils ont vu Jésus mourir, quand ils l'ont vu sur la croix, lui était disqualifié. Surtout que sa condamnation venait précisément de ceux qui devaient connaître la loi, ceux qui devaient connaître ces textes-là. Justement, il aurait dû savoir que la restauration, la rédemption demandait le paiement d'une dette. L'exemple suprême dont il devait se rappeler, dont le peuple d'Israël devait se rappeler, était justement qu'un animal devait mourir pour que les enfants premiers-nés en Égypte soient sauvés. Dans la loi, le sang amène le salut. Ils auraient dû comprendre qu'un sacrifice était nécessaire pour être sauvé. Ils auraient dû savoir que la rédemption, ça ne vient pas gratuitement. Il doit y avoir un prix de rachat. Ils étaient sur le choc d'avoir vu le Messie être exécuté. Ils étaient tristes, découragés, sans espoir. Donc, pour utiliser ce qu'on voit dans Luc 9:20, vous ici, vous dites quoi de Jésus? Êtes-vous comme ses disciples à admirer le grand personnage historique, les grandes œuvres qui ont été accomplies? Admirer les actions extraordinaires qu'il a faites? C'est quoi vos attentes envers lui? Est-ce que vos attentes envers lui sont tellement fortes que vous ne voyez plus les évidences de qui il est et puis ce qu'il veut pour la vie chrétienne? Est-ce que vous vous rappelez ici, il y a quelques mois, il y a eu un sketch qui s'appelait « Mec Jésus » par Bethel. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, ce sketch-là, parce qu'on voyait dans ce sketch-là des gens qui qui se magasinaient un Jésus, qui se magasinaient un Jésus selon leurs besoins, selon ce que ça leur tente, les besoins du moment. Ils choisissaient le Dieu qui faisait leur affaire. Ce qui m'intéresse ici, j'en parle souvent quand le mercredi soir, quand je parle avec les gens, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut réaliser que ces gens-là n'étaient pas intéressés par Jésus lui-même, ils étaient intéressés par ce qu'il pouvait leur apporter. Si on continue dans nos versets. Mais Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Voici deux choses qui sortent de ce bout de texte. Jésus est en train de remettre les pendules à l'heure. La première chose qu'il leur dit, « Vous interprétez mal les événements parce que vous interprétez mal les Écritures. » C'est ça que Jésus leur dit, en fait. Puis là, il doit leur expliquer comment l'Ancien Testament révèle progressivement Jésus. Recevoir un cours de théologie systématique de la part de celui qui les a écrits. C'est assez... Je pense que je n'haïrais pas ça, moi, là. Il y a quand même pire que ça dans la vie. Comme j'aurais aimé être avec eux à ce moment-là, puis me faire raconter Jésus dans toutes les Écritures. L'autre chose qu'on va voir, c'est que Jésus oppose directement ce qui les attriste à la gloire à venir. Eux décrivent des événements d'une façon déprimée. Celui qu'on attendait, il est mort, c'est fini. Alors que lui dit, ces choses-là devaient se produire, et puis Jésus devait être glorifié par la suite. Donc, vous avez une mauvaise interprétation des Écritures. Le verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Parce que la mort et la résurrection de Jésus sont les événements les plus importants de la Bible. La résurrection, c'est le point culminant de ça, de tous ces événements-là. Donc, c'est certain que ça va être mentionné dans l'Ancien Testament. Dans la révélation progressive de Dieu, il n'y avait pas le choix de révéler ces choses-là, puisque c'en était le summum. Un juif de cette époque ne pouvait pas faire autrement qu'être au courant de ces choses-là. Un juif de cette époque-là qui ne savait pas ces choses-là, je m'excuse, mais c'était une ignorance volontaire. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une chose obscure. Au verset 25, il dit « Ô homme sans intelligence dont le peuple est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'était déjà annoncé par les prophètes. Vous devriez savoir ces choses, c'est ça que Jésus leur dit. Il n'y eut aucune excuse à l'ignorance de la part de ceux qui sont en possession des Écritures. Ça, c'est pour nous aussi. C'est nous qui sommes en possession des Écritures. On a la chance de que le Seigneur nous a révélé des choses à travers la parole. On est en possession de ces Écritures-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On met ça sur le coin d'une table, puis on se présente ici le dimanche matin, le mercredi soir, dans nos cellules, face à face, peu importe. On se présente. Puis on va voir des amis, on va chiller un peu, puis après ça, on s'en va. Ou bien si on prend ça à cœur, cette chose-là que Dieu nous a confiée, nous a confié les Écritures, il nous a ouvert notre cœur, ouvert notre esprit à ça. On a des moyens, on en a. On a à travers les cours pro-fac. Je travaille moi-même dans l'édition, on a Ministère RBC, Publication chrétienne, juste l'autre bord de la rue. On a une librairie ici. Puis c'est pas pour me vanter, mais on a pas mal de stock. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a tellement de prédications aujourd'hui disponibles sur Internet. La dernière fois que j'ai proposé ça à quelqu'un que je connais, à un ami, il dit, il était découragé, il ne savait pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui... Il y en a qui ne sont pas nécessairement toutes bonnes, mais il y en a qui valent la peine d'être écoutées et d'être... qui valent vraiment la peine. C'est important aussi parce qu'on ne peut pas croire ce qu'on ne connaît pas. C'est juste une question de logique. Sans études, on ne peut pas connaître. Sans connaissance, on ne peut pas croire ces choses-là. La vérité biblique ne vous laissera pas indifférent. Ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Isaïe 55, 11, Hébreux 4, 12. On parle d'une épée tranchante. On parle de que la parole de Dieu va faire un effet, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Il va nous approcher ou il va nous repousser. L'Évangile selon Luc nous décrit Luc comment, est-ce qu'il y en a qui le savent? Comme un serviteur. Nous décrit Jésus comme un serviteur. On peut tous prendre nos deux pattes, prendre nos deux bras, puis aller servir Jésus. Ça, c'est une chose. Puis c'est vrai, puis j'espère que c'est ce que vous avez à cœur. Mais pourquoi ne pas chercher à s'instruire, puis le faire bien? On peut le faire, mais on peut le faire bien. On peut le faire mieux avec l'instruction, en connaissant les choses. Puis notre deuxième point, voici comment vous devez interpréter. Le but de l'Écriture, c'est de nous pointer à l'auteur des Écritures, vers Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu. Les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, nous pointent vers une seule chose, vers Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut regarder la Bible en entier comme étant christocentrique. Nous avons tous cette tendance à mettre l'emphase sur nous-mêmes ou sur le salut des hommes, on va dire. Oui, le salut des hommes est inclus là-dedans, mais le sujet ultime, le but ultime de la parole de Dieu, c'est de se tourner vers Christ, de tourner les yeux vers Christ. Le message de l'Évangile, rapport. Jésus lui-même affirme le message de l'Évangile, réaffirme le message de l'Évangile. Au verset 25, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Ça, c'est l'Évangile. Christ qui souffre ces choses et puis qu'il entre ensuite dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. L'Évangile, c'est quoi le rapport? Eh bien, c'est ça. Le verset 26 nous le dit. Il fallait que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Jésus ne commence pas ici à décrire ce qui concerne l'histoire de la rédemption dans les Écritures. C'est pas ça qu'il fait. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il fait l'exposition systématique, il prend de lui. Il fait son exposition systématique dans les Écritures. Tout autre sujet dans la Bible est entrelacé là-dedans et relié à ça, découle de ça. Jésus ne présente pas ce qu'il faut faire ou pas faire pour plaire à Dieu. Il présente Jésus. L'Évangile concerne d'abord Jésus. On voit ça qui dit qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qu'il concernait. L'Écriture concerne Jésus. On voit ça dans l'Ancien Testament, à travers Jésus se révèle physiquement parfois en apparaissant lui-même, ou il y a aussi à travers les promesses qui sont pointées vers lui. Il y a des passages tels que Psaume 22 qui parle clairement du Messie à la croix. Il y a Ésaïe 53 aussi qui nous parle de ça. À ceux qui croient que l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs, c'est terminé, ça n'a plus rapport avec nous autres. Il y a des belles histoires là-dedans, des belles histoires du pays d'en haut. Mais maintenant, c'est terminé, ça n'a plus rapport avec nous. Mais Jésus est en train de dire exactement le contraire. Jésus affirme ici que l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on le voit révélé graduellement à partir de Moïse jusqu'à temps que Jésus-Christ se pointe sur la terre. L'être humain est créé pour adorer le Dieu créateur. Pas aucune créature, pas la création. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est qu'en donnant sa vie sur la croix, en subissant le châtiment que nous méritions, puis en ressuscitant avec lui, par l'Esprit, il nous ouvre les yeux puis à le reconnaître tel qu'il est, puis de l'honorer, puis de l'adorer. C'est ce que Dieu souhaite pour nous. C'est ce que Dieu souhaite, qu'on se tourne vers lui. L'Évangile n'est pas tourné vers aucun homme, encore moins vers moi-même, mais vers Jésus. Faites-lui donc confiance à lui. Puis enfin, on voit les disciples qu'ils ont compris. Au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Jésus a aligné les yeux sur les promesses qui avaient été annoncées de l'Ancien Testament, dirigées vers lui, puis qui se sont accomplies telles que c'était prévu. C'est très fascinant de voir que leurs yeux se sont ouverts à un moment précis quand ils ont brisé le pain. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça les ramène à la croix. Des événements qu'ils ont vus. Ils ont probablement vu Jésus briser le pain. Et puis, ça les a enfin ouvert les yeux. Conclusion. Notre problème, c'est qu'on détermine de quel Jésus. Notre problème, c'est que nous déterminons de quel Jésus, pas les yeux fixés sur Jésus, mais fixés sur mes besoins. On a besoin. Je détermine de Jésus, je sais de quel Jésus j'ai besoin selon mes propres intérêts, en me comparant aux autres. Ah, moi, je suis meilleur dans ce domaine-là. Moi, c'est Jésus, c'est lui, j'ai besoin, mes centres d'intérêt. Moi, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un bon travail, j'ai besoin. C'est ce qui détermine le genre de Dieu que je cherche. Puis ça, c'est défaut de fabrication qui va m'amener à la ruine. C'est un défaut de fabrication qui va venir vos relations à la ruine, vos familles à la ruine, et puis toutes vos relations. Parce que ça va mener vos désirs. Vos désirs, ça va de voir vos proches se plier à vos standards à vous. Puis ça va faire, le but, ça va être de les amener à faire le but, vos standards à vous. Le but de leur vie, ça va être vos standards. En règle, le but, c'est de regarder à Jésus. Et puis, en regardant à Jésus, on va s'apercevoir qu'on a un seul pied d'égalité pour tout le monde, c'est qu'on est tous perdus. On doit pointer vers Christ. On doit pointer vers Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On doit pointer vers Christ ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et puis finalement, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, et puis finalement, pour célébrer sa gloire. Il nous a prédestinés, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, 5 et 6. L'Évangile pour tous. Pour moi, c'est pas vraiment important de savoir que vous êtes ici, puis que vous affirmiez ne pas être chrétien, que vous affirmiez être chrétien depuis 5 minutes ou depuis 50 ans. À vrai dire, je m'en fous un petit peu de ça. L'Évangile de grâce est le même pour tous, de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Tous regardent au sacrifice de Jésus-Christ. Pour ceux de l'Ancien Testament, ils regardent dans un endroit futur, ils regardent dans le futur, alors que nous, on regarde dans le passé. Nous sommes seulement un endroit différent sur la ligne du temps de la révélation progressive de Dieu. Attention, je n'ai pas dit l'évangélisation, mais je parle de l'Évangile. L'évangélisation, c'est le fait de prêcher l'Évangile. Le même Évangile nous sauve et guide notre vie. Nous voyons cela exposé clairement dans Tite, au chapitre 2, versets 11 et 12. Je peux le lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La même grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans chaque introduction des épîtres de Paul, des épîtres de Jean, et même des épîtres de Pierre, vous allez voir que l'argumentation de ces auteurs-là retourne toujours à l'Évangile. Je dirais le chapitre 1, chapitre 2 pour certains, mais leur argumentation est toujours basée sur l'Évangile. La parole de Dieu nous guide vers le salut par la foi en Jésus-Christ. La même parole de Dieu est inspirée et utile pour conduire la vie chrétienne, conduire une vie pour la gloire du Créateur, Sauveur et Seigneur de l'univers. Si on se réfère à 2 Timothée 3, 14 et 17. Lorsque les deux disciples reconnaissent Jésus pour qui il est enfin, pour qui il est vraiment, ils le reconnaissent enfin, les deux disciples sont poussés à le suivre. Leur réaction, le jour même, ils viennent de se taper 7 km de marche. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Ils sont arrivés peut-être chez eux à Emmaüs. Et puis, quand ils ont découvert qui que c'était Jésus, oups, soudainement, ce qui était leur tristesse, leur déprime, c'est tout parti, c'est tout envolé. On revire de bord, puis on refait 7 km de marche, puis on retourne à Jérusalem, l'annoncer aux autres disciples. Ils vont tous dire, on vous l'a dit un matin, mais c'est pas... C'est vraiment fascinant. J'ai peine à... Mon cœur dit la même chose qu'eux. J'imagine qu'en ayant entendu Jésus nous raconter la parole de Dieu, comment il se présente à travers la parole de Dieu, j'ai peine à ne pas dire la même chose qu'eux. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Je crée bien. Nous n'appelons pas ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour rien, c'est le sujet de l'Évangile. Le Créateur nous rend capable de l'honorer, le louer, le glorifier. Faisons comme les disciples retournés à Jérusalem, répandons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis comme mon ami Jeff le dirait, faisons de Jésus quelqu'un de fameux. On va prier. Seigneur, on a un seul but, et puis c'est de t'honorer, te glorifier. Seigneur, ces deux disciples-là nous donnent une leçon d'humilité, Seigneur, une leçon d'interprétation aussi. Laissons pas nos propres désirs mal interpréter les événements, Seigneur. Laissons ta parole interpréter ce que tu veux nous faire comprendre. Dirige nos pensées dans cette voie-là, dirige notre esprit dans cette voie-là, et puis... que ce soit notre motivation à te suivre, Seigneur, à t'honorer et à te glorifier. Toi seul mérites d'être glorifié et d'être honoré. En nom de ce Jésus merveilleux, Seigneur, qui se fait connaître à nous à travers toute sa parole. Amen.